Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambil.
Alicia, c'est bienvenue dans votre émission Page à page. Nous nous retrouvons le jeudi de 9h30 à 10h sur les ondes de Radio Occitanie. Alors, c'est la première émission de cette année 2009. Je vous souhaite une belle année avec plein de nouveaux livres à découvrir, des auteurs et puis voilà, beaucoup de lectures que j'aurai grand plaisir à vous présenter tout au long de cette nouvelle année. Alors, je commence aujourd'hui avec comme invité Manu Cos. Bonjour.
Bonjour Claire.
Qui va nous parler de son dernier recueil de nouvelles intitulé « Visiter le purgatoire » édité aux éditions d'un noir si bleu. On en parle dans un instant avec lui, mais comme à l'accoutumée, quelques petites infos. En fait, j'en aurai que deux. Deux salons du livre qui se passent dans notre ville rose. Alors le premier, enfin, ou aux environs, on va dire. Le premier, c'est ce dimanche 18 janvier, le salon du livre de Montgiscard. Pour la cinquième année, le salon du livre accueillera plus de 40 auteurs. Alors je vous donne quelques noms que vous allez reconnaître puisqu'ils sont déjà passés par page à page. Il y aura entre autres Philippe Berthaud, Philippe Ségur, Maurice Zitnicki, Rachel Corenblit, Fabienne Ferrer, Patricia Paris, que nous avons reçue en début décembre, Pascal Dessin, Greg Lamazère, Pierre Lecoz, Alain Légoni, Progresso Marin, Serge Saint-Blanca, qui était venu aussi nous présenter son recueil de nouvelles, et bien d'autres. Je ne vais pas vous donner tous les noms, il y en a plus de 40. Alors c'est à la fois, ils vont vous présenter à la fois des romans adultes, des romans jeunesse, de la BD. Donc je vous invite vraiment à venir ce dimanche 18 janvier à Montgiscard. Je vous donne l'adresse, c'est la salle qui se situe rue du Faubourg du Serre. Alors Serre, c'est S-E-R-S. L'entrée est bien sûr libre et gratuite. Donc n'hésitez pas à venir rencontrer tous ces écrivains, tous ces auteurs. Et puis voilà. Je voulais juste rajouter qu'en avant-première de ce salon, eh bien, comme l'année dernière d'ailleurs, il y a un petit concert qui a lieu, ou un grand concert, hein, d'ailleurs je dis petit, mais bon, un concert tout court, le vendredi 16 janvier à 21h. Et là, je vais avoir besoin de l'aide de Manu, parce que donc Manu va nous présenter
le petit concert.
Le concert, voilà.
Alors, dans le salon. Donc on aura beaucoup d'auteurs qui vont... montrer qu'ils savent aussi faire de la voix. Donc il y aura Philippe Berthaud qui lira un de ses textes. Il y aura Greg Lamazère qui est, paraît-il, diabolique avec un harmonica. Donc
tout à fait, j'ai eu l'occasion d'assister une fois à un concert, à une soirée. Oui, tout à fait.
Il me tarde de le voir. Et ensuite il y aura Lofi, le groupe dont je fais partie avec Emmanuel Urien et Sylvain Loiseau, un percussionniste de grand talent.
Donc c'est vendredi soir à 21h dans cette même salle, à partir de 21h, donc dans cette même salle du Faubourg du Serre à Montgiscard. C'est dans la rue principale de Montgiscard, donc c'est facile à trouver. Et donc voilà, n'hésitez pas à venir donc pour le concert, ça sera très sympa. Ce sont des auteurs, comme vous l'a dit Manu. Et puis le dimanche, toute la journée, de 10h à 19h.
Le samedi aussi peut-être
Non.
Non, que le dimanche.
C'est que le dimanche.
D'accord.
Le samedi, il range la salle entre le concert et il prépare la salle pour le dimanche. Voilà, et donc c'est pour la cinquième édition cette année, grâce notamment à la participation de la librairie Ellipse avec Philippe Blom, que je reçois chaque année pour présenter ce salon. Et malheureusement, la neige l'a retenu la semaine dernière. Elle a retenu d'ailleurs beaucoup de monde. Voilà. Donc la Ville Rose a été un peu blanche la semaine dernière, donc c'est pour ça qu'il n'a pas pu venir. Et puis je vous parlais d'un deuxième salon, donc le salon du livre Jeunesse, qui aura lieu le 24 et 25 janvier à Saint-Aurens. Et là, je recevrai la semaine prochaine Flora Blanco, qui viendra nous en parler plus longuement, en détaillant un peu le programme de ces deux jours, là, samedi et dimanche, donc le 24 et 25 janvier, avec là aussi beaucoup d'auteurs jeunesse, des illustrateurs, des auteurs, des calligraphes. Il y aura entre autres Hélène Dufault, que tu connais, Manu, Marie Millissou, un auteur que j'ai déjà reçu également. Il y aura de nouveau Rachel Corenblit, elle est partie. partout, Rachel. Et puis, le thème de cette année, donc, pour ce festival du livre jeunesse, c'est lire l'image, c'est-à-dire l'image dans l'album. Voilà, donc, la place des illustrateurs sera très importante. Il y aura aussi Maud Langlais, que j'avais reçue également, qui est illustratrice. Donc, on en parlera la semaine prochaine avec Flora Blanco. Donc, voilà, soyez fidèles à page la semaine prochaine. Et puis, ben, je passe...
Page à page, Claire Ambille.
Directement à mon invité, Manu Kos. Alors, il était venu nous présenter il y a 2 ans son premier recueil de nouvelles qui s'intitulait...
Petit guide des transports à l'usage du trentenaire amoureux.
Voilà, un long titre, mais bon, avec plein de petites nouvelles du trentenaire amoureux, quoi. Hein. Donc, c'était un peu... Après, l'année dernière, tu es revenu avec Roméo et Juliette.
Oui.
Voilà, c'est un livre bilingue.
Oui, tout à fait.
En anglais. Et puis là, donc, tu reviens avec « Visiter le purgatoire », de nouveau des nouvelles
en
français.
Le titre complet, « Visiter le purgatoire », emplacement alloué, parce qu'il y a un petit
oui,
bandeau.
Oui, mais il n'est pas sur la couverture.
En tout petit.
Ah, en tout petit, d'accord. Très bien, donc « Visiter le purgatoire », emplacement alloué. Voilà, donc déjà rien que le titre, c'est humoristique.
D'une certaine façon, oui.
Mais quand on lit les nouvelles, on rit un peu moins.
C'est possible.
On ne rit pas du tout d'ailleurs. Non, ce que je veux dire, c'est que elles sont un petit peu noires, ces nouvelles. Non,
j'opte toujours pour gris clair, mais pour moi, ce n'est pas encore tout à fait noir.
Donc, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, ça serait bien dommage d'ailleurs, eh bien, ils vont te connaître. On va rappeler un peu qui tu es, Manu. Alors, tu es un ancien prof de français.
Oui.
Voilà, qu'on aurait tous aimé avoir. Hein,
je ne sais pas. Personnellement, j'aurais pas aimé m'avoir. Mais
ah bon, ben non, si, moi, je pense que aussi, tu devais être très passionné. Donc, je pense que tu devais transmettre à tes élèves la passion de l'écriture, de la lecture.
S'il y en a encore qui écoutent.
Ah bah peut-être. Hein, bah alors voilà, téléphonez à Radio Occitanie, donnez les témoignages.
Peignez-vous maintenant.
De votre prof de français, Manu. Ensuite, voilà, tu es originaire de l'Aveyron.
J'ai grandi là-bas, oui.
Voilà, t'as grandi là-bas, tu es passionné de rugby.
Je joue un peu.
Tu joues. Ah, tu joues. Oui, mais enfin,
on me donne un ballon de temps à autre et je cours.
D'ailleurs, tu avais aussi écrit un roman en bilingue, là aussi,
rugby,
qui s'appelle Fair Play et qui était sur le rugby. Et puis, bon, tu es papa de deux petits anges.
Qui commencent à grandir maintenant.
Qui commencent à grandir.
Ça devient l'angelot maintenant.
Bon. Et puis tu es bassiste et guitariste donc dans le groupe Lateigne.
Voilà.
Et dans l'autre groupe.
Je suis bassiste dans Lateigne et je suis guitariste brutiste dans
l'Ophi. D'accord. Donc voilà. Et tu dessines aussi. Enfin, tu fais plein de choses.
Je n'arrête pas.
Voilà. Tu es très polyvalent, artistique.
On va dire ça. Je m'essaie à beaucoup de choses ensuite.
Bah ça marche apparemment. Un CD de Lateigne. Voilà.
Oui, Hein, je suis pas à l'origine du CD de Lateigne néanmoins, mais oui, effectivement,
oui,
il y a
voilà,
plein de choses qui marchent.
Ce sont des choses concrètes avec des résultats. Mm-hmm. Et puis donc, voilà, donc, dans la bibliographie, c'est ce que j'ai dit, donc petit guide des transports à l'usage du trentenaire amoureux, Roméo et Juliette, Fair Play, et donc là, visiter le purgatoire, emplacement à louer. Donc on va prendre un petit peu les nouvelles une par une pour un peu détailler... le contenu de ces nouvelles, moi j'ai beaucoup aimé, hein, comme je le disais.
Simplement, j'en suis ravie.
J'en étais restée au recueil de nouvelles, le premier, hein,
le petit guide des transports.
Voilà. Et là, c'est vrai que celui-ci est beaucoup plus, plus noir, quoi,
plus gris, mais enfin.
Il y a plus questionnement sur l'avenir, sur l'existence, sur la vie.
Bah,
sur,
il commence exactement où se terminait le petit guide des transports à l'usage du trentenaire amoureux avec une personne qui est amoureuse mais qui cette fois-là se retrouve seule et donc qui est posée sur un banc face à la Garonne en train de se remémorer son amour et de se rendre compte que le futur qu'il a est finalement sans grande importance pour lui à ce moment-là.
Ce sont des choses qui arrivent dans la vie, en fait.
Hein. Absolument.
On va le dire, voilà, ce sont les choses de la vie. Donc
voilà,
c'est un peu un livre
sur... d'amour
qui
donne l'impression que la vie n'a plus de sens, ouais.
Tout à fait. Donc c'est divisé en 3 parties, ce recueil, c'est assez original, j'ai trouvé. Alors la première partie, c'est « Dans ton cœur ».
Oui.
Avec donc justement cette première nouvelle dont tu parles. Après, c'est dans ta tête. Et la troisième partie, c'est dans tes rêves.
Tout à fait.
Alors, pourquoi cette
Mais c'est une espèce de
trilogie.
Alors, il y avait au départ, je crois, une dizaine ou une douzaine de nouvelles. L'éditeur Pascal Arnaud, qui est donc le patron de De Noir Si Bleu, m'a fait gentiment
joli
remarquer.
Joli titre d'ailleurs d'une maison d'édition, ah, De Noir Si Bleu, joli titre.
C'est une très belle maison d'édition qui fait un très beau travail sur la nouvelle en ce moment. Donc il m'a conseillé d'en enlever quelques-unes, je l'ai écouté bien entendu, et de les organiser un petit peu, d'essayer d'aller d'un point à un autre. Et donc effectivement, on part du cœur d'une personne amoureuse et on finit dans la tête ou dans les rêves d'une autre personne, qui est peut-être moi aussi, hein, mais voilà, donc on progresse vers des choses qui sont de moins en moins le moi, la personne.
Alors donc justement la première nouvelle donc s'intitule en ce début d'automne au bord de la Garonne. Alors justement j'ai bien aimé, c'est la seule qui se passe, enfin qu'on sait qui se passe à Toulouse, parce que là c'est vraiment bien décrit, voilà, c'est
bien, oui, enfin c'est le jardin,
la prairie des filtres,
c'est la prairie des filtres,
voilà, ça se passe à la prairie des filtres.
C'est un endroit où j'aime bien aller me poser pour regarder un peu passer la Garonne, le temps, les gens.
Et c'est ce que fait le personnage.
Il est fort possible qu'elle ait été écrite sur un banc, comme son nom l'indique, devant la Garonne.
D'accord, donc c'est un peu, est-ce que ça serait un peu autobiographique?
Pas autobiographique dans le sens où c'est la souffrance qui peut être exprimée là-dedans.
Bon, on l'a tous vécu,
oui,
peut-être,
voilà,
un jour ou l'autre.
On l'a tous vécu.
Ouais, tout à fait.
Voilà, et puis quand je l'ai écrit, je m'amusais un petit peu par rapport à moi-même de cette espèce de romantisme chic qu'on a quand on a un gros chagrin d'amour. On se pose devant la Garonne et on fait « Ah, je l'aimerais pour toujours ». Bon, et en même temps, on sait que juste après, on va aller acheter des chocolats ou n'importe quoi.
Ou une maison en pain d'épices.
Ou une maison en pain d'épices, enfin, ce qui viendra. Et voilà, j'ai voulu arrêter des petits moments comme ça où on se sent flotter entre deux existences, entre deux états d'esprit.
Et j'aime bien la fin parce que bon, il y a quand même une... Enfin, moi, je l'ai pris comme une petite note d'espoir, quoi. La fin, bon, je le dis pas parce qu'il faut laisser la surprise aux auditeurs et aux futurs lecteurs, mais j'ai bien aimé la fin, là, le petit post-scriptum, quoi, quand
oui,
même.
Oui, voilà, c'est quelqu'un qui a décidé de ne plus jamais être amoureux, et qui, comme je crois un peu chacun de nous, n'a qu'une envie, c'est de l'être, c'est de tomber éperdument amoureux pour éviter tous ces petits problèmes liés à lui-même,
pour vivre, quoi. Je crois,
pour
tout
vivre,
simplement.
Oui, puis pour... éventuellement pour s'accrocher à quelqu'un d'autre, mais bon, ça c'est
voilà. Mais donc voilà, j'ai bien aimé celle-ci. Je trouve qu'elle, enfin moi, j'ai vraiment particulièrement aimé parce qu'elle est pas aussi, je dirais, grise,
triste, horrible,
que d'autres qui sont certaines sont très, ont des chutes.
Elle a un côté guiré dans le,
oui, voilà,
dans la plainte.
Alors la seconde, c'est Atlas, le Maroc. Alors là, c'est une histoire aussi d'amour. Hein,
c'est une très belle histoire d'amour, oui.
Entre deux hommes.
Entre deux hommes, oui.
Dont l'un décède. Hein, on comprend qu'il y en a un qui meurt. Et puis donc, l'autre va essayer de se souvenir en essayant d'aller dans des lieux, de revivre. En allant dans des lieux qu'ils ont vécu, où ils se sont aimés. Donc c'est une très belle histoire. Voilà, Atlas. Et c'est vrai que c'est pas toujours... évoqué dans les livres, enfin dans les histoires, cet amour entre deux hommes, c'est pas toujours, c'est assez rare, c'est rarement traité.
Disons que c'est une histoire d'amour absolument comme une autre, et
ah oui,
au
oui,
moment
tout
où
à fait.
je l'ai écrite, je me suis dit mais c'est vrai que cet amour homosexuel est encore plus intéressant justement parce qu'il y a ce décalage, on attend quelque chose d'autre, et en fait c'est une histoire d'amour tout à fait classique, hein. Il y a une espèce de comparaison avec le lac de Lamartine, c'est vraiment ça. Et qu'est-ce qui se passe si le lac de Lamartine se passe au 21e siècle, quelque part au Maroc, entre deux hommes? Ben, il se passe, voilà, Atlas.
Donc il y a des beaux paysages qui sont évoqués.
Oui,
tu as été au Maroc?
Je suis allé au Maroc, oui. Et il y a beaucoup de choses dans la nouvelle.
Ça t'a bien plu?
Oui, 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 qui le rappelle.
Alors après la troisième, donc c'est Adam et Ève. Alors là aussi, ça se passe en Afrique du Nord.
C'est dans le Harar.
Voilà, sur un site archéologique, en fait, ce sont des fouilles archéologiques. Et alors, c'est un peu, on pourrait dire, l'aube de l'humanité, le commencement de la vie, les origines de l'homme. Hein. Elle est intéressante aussi, celle-là, de nouvelles.
Ben, j'espère, oui.
Ah oui, non, Adam et Ève. Alors ensuite, donc, c'est Par-delà les nuages, je crois.
Oui, c'est possible.
Oui, si je suis bien mes notes, normalement.
Espérons que qu'elles sont bien faites, les notes, oui.
Oui. Mais j'ai un doute. Non, la quatrième, c'est Chasse à l'homme. Celle-là, oui, voilà, Chasse à l'homme. Alors, celle-là, je l'ai beaucoup aimée, mais elle est très dure. La chute est abrupte, vertigineuse. On arrive dans le néant, dans le vide.
C'est un peu le but
du recueil. Ah oui, j'ai eu du mal à passer à la suivante. Hein. Ça m'est, elle m'est restée très présente dans l'esprit. Hein. Alors, c'est difficile à raconter. Bon, c'est deux amis qui sont passionnés de la petite reine.
De VTT. Voilà, ah, c'est du VTT, parce qu'on est vraiment en pleine campagne. Enfin, on est en pleine montagne. On est un peu. Pour moi, c'est dans les Pyrénées.
Et oui, dans les Pyrénées.
Là aussi lié à un sport que j'ai pratiqué assez longtemps. Ah. Et cette balade entre hommes va devenir. Ils sont les témoins d'un accident, d'un accident de voiture devant eux. Et ils prennent la personne qui a eu un accident pour un meurtrier, en fait. Et donc, c'est la façon dont ils ont à gérer ce problème-là.
Voilà. Et la chute qui en découle, dont on sait, dans les dernières lignes, on croit que ça y est, l'histoire est finie. En fait, Manu, tu écris quelques lignes, et alors là, c'est le néant. Donc, vraiment, une histoire très, très, très forte. Chasse à l'homme. Enfin, une nouvelle très, très forte. Voilà, chasse à l'homme. Ensuite, on passe à la deuxième partie, donc dans ta tête. Alors là, on a Autobahn Guru.
Oui, l'histoire d'un voyageur de commerce, on va dire, qui utilise les aires d'autoroute pour la méditation transcendantale.
Oui, vraiment, tout à fait.
Et qui s'évade complètement de son quotidien. Et ça, c'est... moi, c'est une de mes nouvelles... Enfin, je l'adore parce que c'est quelque chose... Non qu'il m'arrive fréquemment de faire de la méditation transcendantale sur des aires d'autoroute, mais j'aime beaucoup cette espèce de vide qu'on peut avoir à un moment quand on est seul dans sa voiture, quand le jour se lève.
On est détaché de tout
et en même temps, on est tout à fait dans la vie, dans le flux des
Oui, parce qu'on capte tout quand même.
On est parti de quelque part, on va quelque part, et pourtant, il y a un moment où on est nulle part dans ces aires d'autoroute. C'est un endroit que j'ai toujours trouvé... très intéressant, les aires d'autoroute.
Bon, la fin, là aussi, est un peu... Enfin, la chute, on ne sait pas trop...
Alors, les chutes de toutes ces nouvelles, c'est... Tu parlais de néant, c'est le purgatoire. C'est-à-dire, c'est la zone juste entre la vie et la mort, quoi.
Ils ne sont ni l'un ni l'autre
à aucun moment et ils n'arrivent pas à savoir où ils veulent aller.
Donc, on ne sait pas trop où ça va basculer, quoi. Moi, ça m'avait fait penser à l'adversaire. Les lecteurs le comprendront pourquoi quand ils le liront, mais ça m'a fait penser un peu à ça. C'est une personne qui se coupe un peu de sa vie,
de son rôle dans la société.
Voilà. Oui, c'est juste pour l'image, par rapport à ça. Après, ça n'a rien à voir avec l'histoire de l'adversaire. Hein. Après, donc on a Par-delà les nuages, là, comme je disais tout à l'heure. Donc là, c'est curieux aussi. C'est un homme qui se retrouve au ciel.
Qui se retrouve dans un avion, en fait.
Dans un avion.
Au ciel, de par le fait.
Oui. Un avion en vol, on va dire.
Voilà, un avion en vol qui s'est déjà écrasé. Et ça, c'est aussi une nouvelle que j'ai écrite dans un avion, peut-être un peu pour conjurer le fait que quand je suis dans un avion, je ne suis pas toujours très rassuré.
Ah, c'est un peu un exutoire, alors.
Il y avait un côté exutoire. Et puis oui, ce côté aussi, dans le transport, encore une fois, où souvent, quand je prends un avion, je me dis... Si l'avion tombe, où en est ma vie? Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est vraiment la mort qu'on peut rien y faire, quoi. L'avion tombe. Si quand, chaque fois qu'on monte dans un avion, on fait ce petit examen de conscience et dire, est-ce que si je meurs maintenant, j'ai fait ce que je devais faire pour mes enfants, pour mes proches, pour le fonctionnement du monde en général? Et quand on réussit à se dire, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai trop rien raté, ce que j'ai raté, je l'assume. Il y a un moment où il y a un certain plaisir à prendre l'avion et à imaginer qu'il va s'écraser, d'ailleurs.
Ah oui, Ah bon? Donc voilà, il y a aussi la notion de la mort d'un enfant. Il s'épasse son enfant.
C'est la dernière chose qui retient cet homme-là, qui est un grand sage, d'une certaine façon un sage qui a trouvé la mort dans un avion, c'est est-ce que son enfant est mort avec? Puisque c'est une obsession de père, toujours.
Oui, de parents.
De parents, voilà. Oui, absolument. Je dois la porter encore plus loin, l'emmener plus loin.
Donc voilà. La troisième donc de cette deuxième partie, c'est No Man Island.
Alors là, c'est la suite d'un accident d'avion d'ailleurs.
Les deux se suivent, c'est rigolo. On dirait que ça a un rapport, mais ça n'en a aucun. Hein, ils sont tout à fait. Alors c'est la suite d'un crash aérien. Et alors là, moi, j'ai beaucoup aimé aussi, c'est Robinson Crusoe version.
Version un peu
version
grande,
noire, hein,
oui, voilà,
grise, mais gris foncé.
Contrairement à tous les Robinson qu'on trouve dans les Robinsonades, comme on dit, il n'a absolument aucun moyen de sortir de l'état, entre
lequel,
guillemets, de nature. Quoi. Il ne peut pas faire de feu, il ne peut pas manger.
Oui, c'est un Koh-Lanta très.
J'ai pas réellement pensé à Koh-Lanta.
Pire que.
Non, tu le dis, effectivement.
Pire que Koh-Lanta.
Voilà, ouais, tout ce qui est Robinsonade ou Koh-Lanta, ça veut toujours installer une société, une forme de vie. Et j'essayais de travailler sur l'idée que quand on ne peut rien faire, quand on ne sait pas allumer un feu, quand on ne sait pas poser un piège, etc., qu'est-ce qu'on va devenir? Et la seule solution qu'a ce personnage, c'est de redevenir un animal ou un élément de l'île.
De la nature.
De la nature. Et complètement oublier sa conscience.
Là aussi, la chute est terrible, hein. Elle est puissante. Hein.
Il y a eu beaucoup de travail sur cette chute parce qu'elle était très insatisfaisante au départ.
Ah oui ? Ah bah là, elle est satisfaisante d'une certaine manière. Enfin, je veux dire, elle n'est pas rose, hein, mais elle est puissante. Hein. Enfin, c'est pareil, elle ne laisse pas indifférente, cette nouvelle. Alors après, on passe à la troisième partie, Dans tes rêves. Et là, la première nouvelle s'appelle Shiguro.
Shiguro, oui.
Voilà. Alors, c'est japonais,
c'est japonisant, on va dire. J'ai pas la moindre idée de ce que ça veut dire en japonais. Aussi bien quelqu'un me dira un jour que c'est une insulte au troisième degré que se lancent les chauffeurs de taxi à Tokyo. Mais
Donc, c'est une histoire de manga. Enfin, on va dire.
C'est des enfants, voilà. C'est à la fois très proche de cette histoire. Quand je vois mon fils plonger dans un manga, dans une espèce de transe de lecture. Je me dis, bon, mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Et j'ai imaginé un personnage qui est prisonnier, d'une certaine façon, de ces scénarios de manga, qui parle comme un enfant, et on s'aperçoit que ça peut effectivement être un enfant, et cet enfant, il est peut-être dans une institution spécialisée, parce qu'il a
des
vrais problèmes qu'il a mis à distance avec ses histoires. Donc, c'est aussi un peu la problématique des écrivains, c'est-à-dire qu'on imagine des histoires aussi pour mettre à distance un certain nombre de choses.
Un enfant dans son monde intérieur.
Mmh. Et donc, le danger qu'il y a à le faire sortir de là.
Mmh. Ou à le laisser quand même trop aussi dedans.
Oui, tout à fait. Il y a les deux bulles qui sont extrêmement lointaines et en même temps qui se côtoient.
C'est un thème qui te tient à cœur
Disons que... Bon, ça parle d'enfance, des rapports qu'on a à l'enfance, donc c'est quelque chose qui me tient à cœur. Il y a aussi le traitement qui m'intéressait beaucoup parce que... La narration dans les mangas est très intéressante. Moi, je regarde un peu ce que lit mon fils. Et il y a des possibilités toujours narratives qu'on oublie complètement. C'est-à-dire que quand un personnage meurt, 10 pages après, il peut être ressuscité parce que on est allé le chercher, on est allé voir un dieu qui fait ceci, qui fait cela. Il y a une énorme naïveté dans les mangas, on va dire, les plus jeunes, qui permet d'aller toujours de l'avant. Et j'étais très intéressé par essayer de retrouver ça. Tout en y mettant une distance, on va dire, psychologique.
Oui, ouais, bah ouais. Ça serait bien que ça puisse marcher en frais. Alors, la deuxième, c'est Monsieur Luc. Monsieur Luc, voilà, M'.
Monsieur Luc, oui.
Monsieur Luc. Alors là, c'est bon, je dirais, c'est l'histoire d'une existence hein, et ses questionnements, enfin... C'est un peu la, je dis banal parce que bon, ben, quelque part, la vie, c'est banal.
C'est
hein,
une exploration de la banalité d'une existence.
D'une existence de monsieur tout le monde, hein, finalement. Monsieur Luc, c'est
un célibataire en ville et qui s'ennuie.
Qui travaille, hein, pourtant, il travaille.
Qui travaille, hein, qui n'a pas de, on va dire, de joie, de
il
grande
fume
joie.
Des petits pétards de temps en temps.
Pétards, hein. Voilà, et c'est une des nouvelles qu'on a travaillées après pour le spectacle de Lofi, c'est-à-dire qu'elle réapparaît dans le spectacle sous forme d'un slam qui est beaucoup plus court, mais qui raconte exactement la même histoire.
Parce que Lofi, là, je fais un aparté, ça ne fait pas que chanter, ça
c'est le rapport
choses.
Entre le texte et le son,
le
hein, donc il peut y avoir de la chanson pure, mais il y a aussi énormément de slam, on fait parfois de la lecture musicale aussi, il y a quelques auditeurs qui nous ont peut-être vus dans cet exercice-là. Lofi, c'est... d'abord Emmanuel Urien et moi avec nos textes essayant de les mettre en musique, de les mettre sur scène.
Oui.
Et on vient de recevoir l'appui précieux d'un percussionniste saxophoniste de grand talent.
D'accord. Et alors la dernière donc de ce recueil, c'est Soum. Ça veut dire « je suis en occitan ». Alors, ça tombe bien, on a Radio Occitanie, donc c'est sympathique. Alors, pourquoi en occitan, tu parles
alors, c'est
occitan
la... Non, je ne parle pas du tout occitan, et c'est justement ça qui a motivé la nouvelle. Et cette nouvelle, c'est un peu pour moi l'aboutissement du recueil. Elle avait été écrite avant pas mal d'autres nouvelles, mais de pouvoir la montrer à un éditeur, la poser, c'est pour moi tout le recueil est là pour ça. Pour l'amener. Donc c'est la voix de quelqu'un qui meurt dans les vignes, sans doute
qui
parce
meurt,
qu'il s'est suicidé.
Voilà, volontairement, j'allais dire.
Et qui regarde le temps qui est passé et le temps qui va passer, puisqu'il est, comme tous les personnages du recueil, entre la vie et la mort.
Voilà, donc
et il a la possibilité de voir qui il est et qui il a été, qui il sera.
Voilà, puis les gens qui l'ont entouré dans sa vie, l'enfant qu'il connaîtra pas, voilà. Etc. C'est très particulier. Hein, tout ce recueil, ouais, se joue. Voilà, c'est ça, entre le monde des vivants et le monde des morts, juste entre les deux, quoi, finalement.
C'est ça. Mais c'est le purgatoire voilà, au sens chrétien du terme.
Tout à fait. Et donc justement, est-ce que tu peux nous lire les quatre dernières phrases de cette nouvelle, Soum, qui ont été traduites par Maurice Andrieux, justement.
Que je remercie à nouveau ici. Alors, j'ai pas la beauté de sa voix, il me les a lues une fois au téléphone, mais ça donnait quelque chose comme « Sun les mots can faitis calar, sun la lengua cantuado, sun la rei con revira, sun la mort que calpas dire.
Voilà. » Alors, est-ce qu'on peut dire... En français,
ça veut dire « je suis les mots qu'on a fait taire, je suis la langue qu'on a tuée, je suis le soc que l'on retourne, je suis l'amour qu'il ne faut pas dire, ou je suis l'amour que l'on doit taire, en fait. »
D'accord. Donc ça se termine comme ça, cette nouvelle qui s'appelle « Soum », donc « je suis en occitan ». Elle est très belle aussi, celle-là. Il y a beaucoup de descriptions de la vigne, de la nature, enfin de cette végétation.
C'est un premier travail poétique, on va dire, pour
oui,
moi.
Oui, elle a un côté poétique, je trouve, celle-ci, comparée aux autres. Hein. Enfin bon, au niveau de la description, elle est plus douce.
Oui.
Oui.
C'est pour faire une fin de recueil un peu plus doux.
Ouais, celle-là, elle a un petit côté plus doux. Alors, tes projets, Manu, comme on arrive presque à la fin de l'émission, quels sont tes projets
Alors, dans quel domaine? Parce que je déborde de
ah,
projets.
Ah oui, bon, livre, on va parler.
Alors,
livre,
en livre, j'ai actuellement un roman, deux romans en préparation, un roman bilingue qui est en lecture chez les éditrices de Talent Haut, donc qui devrait être le troisième, qui raconte, en fait, c'est un petit peu l'histoire de Soum, hein, puisque c'est toujours ce fantôme qui est un de mes fantômes à moi, que j'ai retranscrit dans une petite histoire qui se passe dans les Corbières, avec une maison qui est peut-être hantée, une jeune Anglaise qui vient visiter cette maison.
D'accord, donc version bilingue.
Plus destinée à un public adolescent.
D'accord.
J'ai une série de romans, on va dire, plus ou moins expérimentaux sur... qui se rapproche de l'écriture automatique. Alors pour l'instant, je suis en train soit de les faire lire à des éditeurs, soit de les faire lire à mes proches qui me disent « arrête tout de suite, continue ». Voilà, donc ça c'est dans le domaine de l'écriture. En musique, le projet Lofi est sur des rails, donc on est en train de travailler là-dessus. Voilà, je travaille quelques illustrations pour ma compagne Emmanuel Urien aussi et pour des petits textes pour enfants. C'est à peu près tout, je crois.
Ah bah ça fait déjà pas mal.
J'ai dû en oublier quelques-uns. Mais...
Voilà, donc du dessin, de la musique, de l'écriture, voilà quoi.
Nous sommes en train de parler de la possible adaptation télévisuelle d'une pièce qui s'appelle Tonton Maurice est toujours mort.
Oui, je l'avais annoncé pour la fin de l'année. Voilà, tout à fait. Ben merci Manu, on se revoit très bientôt. On se retrouve la semaine prochaine.